présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Une femme de passer ses vacances dans un coin comme celui-là. Elle lui dit, c'est-à-dire que j'ai eu un accident, on m'a fait une opération assez délicate. Je suis en convalescence, quoi. Il faut surtout que beaucoup de repos. L'épicière revient. Elle tend le paquet de café à Antoinette. « Merci, je dois combien ?»« 30 francs !» Elle soupire et dit « C'est cher !» et sort de son porte-monnaie de l'argent. Le jeune homme se sert du pain d'épices et 1 kilo de sucre. Il paye. Et ils sortent tous les deux. Une fois dehors, elle lui dit « Ils nous ont vu partir ensemble, tout le village veut venger. » Il lui dit « Non, ici, les gens sont assez discrets. » Il se dirige vers la maison rose qui est au carrefour du chemin d'Antoinette. Il lui demande « Qu'est-ce que vous faites de vos journées ?» Elle lui répond « Pas grand-chose, mais j'ai une voisine qui habite la maison devant chez moi, Mademoiselle Charlotte. » Ah oui, je vois, brave dame. Son ami ne vient la voir qu'en fin de semaine, je crois. Il a un bâtiment. Il se nomme Maurice. Moi, c'est Louis, elle lui dit. Et moi, Antoinette. Ils arrivent devant la maison. Il lui dit, eh bien, au revoir, mademoiselle. Au revoir.
Okay.
Et il entre dans la maison. Elle poursuit son chemin. Lorsqu'elle revoit Charlotte, elle lui parle de Monsieur Louis. Elle lui dit, c'est un gentil garçon. Antoinette demande, il n'est pas fiancé? Non, ni de petite amie. Et puis tu sais, dans le métier, il faut qu'il fasse attention. Les jours passent, il fait de plus en plus chaud et la journée Antoinette préfère rester à sa maison. Elle ne sort que le matin et en fin de journée. Les gens du village ont commencé à faire les foins. Leur champ se trouve de l'autre côté de la nationale. Le village a juste des champs pour vaches. Un jour, Antoinette voit Monsieur Louis se promener devant le chemin, dans le chemin qui mène à sa maison. C'est en fin d'après-midi. Elle sort de la maison et accourt à lui. Bonjour. Il se retourne, s'arrête. Bonjour. Elle lui demande, vous vous promenez? Il lui dit, oui, j'aime bien me promener ici, car les haies ont des noisettes. Je peux vous accompagner? Oui, bien sûr. Vous allez où? Je vais jusqu'à Beautreuzel. Alors allons-y. En passant devant la maison de Charlotte, il la voit dans son jardin en train de bêcher. Il s'arrête pour lui dire bonjour. Elle arrête de bêcher et va vers eux. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Loulou lui dit. Bonjour, mademoiselle Charlotte. Nous allons nous promener jusqu'à Beautreuzel. Elle lui dit, je peux aller avec vous? Oui, bien sûr. Bien, j'arrive. Et elle les accompagne. Après la promenade, Charlotte les a invités à prendre le café chez elle. Puis, en se quittant, elle dit « Il faudra que nous vous voyions comme ça. Ça me fera un peu de compagnie. » Monsieur Loulou lui dit « Oui, pourquoi pas ?» Et il se quitte. Sur le chemin, Antoinette dit, elle est gentille, Oui, elle est bien. Mais elle est bien seule. Antoinette lui dit. J'ai vu souvent pleurer. Elle ne doit pas être heureuse. Ce qu'il faudrait, c'est un gentil jeune homme. Et qui s'occupe bien d'elle. Lorsqu'elle retrouve Charlotte au jardin, elle lui dit « Il est gentil, tu ne trouves pas ?» Elle lui répond « Oui, très. » Antoinette lui dit « Il a l'air très timide. Tu as vu qu'il te dévorait des yeux ?» Charlotte ose les épaules et lui dit « Arrête, c'est ridicule. » Quand Antoinette voit Monsieur Louis au village, elle lui dit « Si on allait faire un tour ensemble tous les trois, Charlotte a l'air tellement triste qu'elle lui ferait du bien. » Il lui demande « Vous croyez ?» Elle lui dit « Oui. » « Mais je vais la gêner ?»« Non, vous ne la gênerez pas du tout. Bien au contraire. » Elle m'a dit qu'elle vous trouvait très agréable. Et vous? Moi, je pense plutôt à vous. Mais vous êtes gentille de penser à elle. Elle lui demande, alors je lui dis que vous venez la chercher tout à l'heure? Oui, cela vous fait plaisir, elle lui dit. Surtout pour la pauvre Charlotte qui passe ses journées à pleurer. Vous savez, elle est très malheureuse. Non, je ne le savais pas. Son ami est une vraie brute. D'ailleurs, il a failli. Il a fait très souffrir sa première femme. Et elle en est morte. Je croyais qu'elle était morte d'un accident. Oui, mais c'est à cause de lui, parce qu'il la rendait nerveuse. Bon, je dis à Charlotte de venir, que vous venez la chercher en fin d'après-midi. Et elle se sauve. Elle va chez Charlotte, frappe à la porte. La porte s'est ouverte. Charlotte, ma chérie, je suis venue te dire, c'est que Monsieur Louis viendra te chercher en fin d'après-midi pour nous promener. Elle lui dit, je ne sais pas si je pourrais, j'ai beaucoup de choses à faire. Tu sais, demain Germain revient. Antoinette lui dit, comme c'est dommage, il va être très triste. À chaque fois, il est tellement heureux de te voir, si tu savais. Il me parle constamment de toi. Tu en as de la chance. Charlotte lui dit, le pauvre, mais il ne faut pas qu'il se fasse des idées. Je ne peux rien pour lui. J'ai un ami que j'aime. Je crois que c'est qu'il vaudrait peut-être mieux que je ne le voie plus. Je serais plus sage. Antoinette lui dit, tu lui feras tellement de la peine. Non, attends, attends un peu. Et il va repartir et aura ses occupations. Charlotte soupire et lui dit, bien, mais je ne veux pas qu'il me fasse la cour. Mais je serai avec vous, chérie. Thank you. Dans la soirée, Louis est venu la chercher. Elle se fait distante et ne parle presque pas. Louis est surpris et lui demande « Qu'avez-vous ? Vous êtes souffrante ?»«
Non, pas du tout, mais je pense à tout ce que j'ai à faire. » Antoinette dit
« Ah oui, il revient !» Charlotte, surprise, la regarde et lui dit « Oui, et je suis... il revient et j'en suis très heureuse. » Antoinette va vers elle et lui dit « Mais c'est tout à fait naturel !» Louis se sent gêné. La promenade se poursuit tristement. Et ils se disent au revoir. Une fois que Louis est parti, Antoinette lui dit « Tu l'as attristé. » Charlotte lui dit « Je suis navrée, mais je ne peux pas faire autrement. » Le lendemain, lorsqu'elle voit Louis sur la route du village, elle lui dit
« Vous avez vu comme elle est triste du retour de son ami ? Elle vous aime beaucoup et il faut penser à elle, ne pas la laisser seule. »
Louis lui dit
« C'est gênant, mais je vais essayer. » De la voir de temps en temps, ou plutôt de vous voir.
Antoinette sourit et lui dit.
Mais pour elle, il lui demande. Et à vous, cela vous ferait plaisir que je vienne vous chercher?
Elle lui dit.
Oui, bien sûr.
Les jours passent, ils se voient souvent. Charlotte, à force de voir Louis, cela lui devient familier. Antoinette les laisse souvent ensemble. Elle marche en avant ou derrière eux. Une ou deux fois, elle les a quittés en courant, leur disant qu'elle avait quelque chose d'urgent à faire.
Antoinette dit à Charlotte, « Tu vois, il est gentil, non ? » ?»«
Oui, il est bon camarade. »
Durant les promenades, Louis leur explique la nature, le nom des plantes, des insectes, leur vie, etc. Antoinette dit à Louis, « Elle vous trouve charmant. Et vous, elle est gentille. » Les jours passent. De temps en temps, Charlotte les invite à prendre le café chez elle.
Entrez.
Ils entrent.
Asseyez-vous.
Un peu de lait, oui.
Charlotte continue sa vie tranquille. Antoinette et Louis ne sont pour elle que des voisins qui viennent la voir pour la distraire un peu sans plus. Un jour, Antoinette dit à Louis, Charlotte aimerait vous parler. Elle aimerait vous dire une chose très importante. Un service. Louis, intrigué. Quoi ?
Je ne sais pas. Elle m'a seulement demandé de vous dire qu'elle vous attend ce soir à 21h à Boxhausen.
Bien, j'y serai.
Antoinette est à Boxhausen, derrière le château de la tour. Il fait nuit. Elle entend des pas, voit arriver Charlotte.
Louis, vous êtes là ? Lui, vous êtes là?
T'as pas dû encore arriver.
Il s'assoit sur une pierre et attend. 5 minutes plus tard, lui arrive. Il va vers elle. Elle se lève.
Bonsoir, Louis.
Bonjour, Charlotte. Vous avez quelque chose à me dire?
Elle lui dit.
Mais non, c'est vous qui avez quelque chose à me dire.
Mais non, je ne comprends pas.
Vous m'avez fait dire que vous avez quelque chose à me dire.
Charlotte lui dit.
Mais moi aussi, on m'a dit la même chose.
Je commence à comprendre. C'est Antoinette. Elle est bizarre, cette fille. Elle a toujours cherché à nous rapprocher. Et là, ce rendez-vous.
Louis lui demande.
Pourquoi fait-elle ça?
Charlotte lui dit.
Je ne sais pas. Elle doit avoir quelque chose de malsain.
Louis lui dit.
C'est une malheureuse qui veut le bonheur des autres.
Charlotte lui dit.
Ou peut-être leur malheur. Demain, je vais avoir une discussion avec elle. Et je ne tiens plus à la revoir. J'aime Germain et ne veux pas le tromper.
Elle est jalouse de mon bonheur.
Louis lui dit.
Elle m'avait dit que vous étiez malheureuse.
Charlotte sur ses épaules. C'est plutôt elle qui l'est.
Je crois qu'elle cherche, c'est à détruire mon bonheur en mettant dans vos bras.
Il lui dit, elle est complètement folle.
Tout à coup, elle entend des pas dans le chemin.
Charlotte lui dit, vite, cachons-nous.
Trop tard.
C'est Germain, avec un fusil. Il les voit.
Il a tiré sur lui qui est tombé à terre. Charlotte lui crie.
Ah! Mais qu'est-ce que tu as fait? T'es complètement fou!
Germain lui crie.
Non, je sais ce que je fais. Salope, c'était ton amant.
Mais non, pauvre idiot!
Il lui dit. Moi, idiot, tout le monde savait qu'il était ton amant. J'ai reçu une lettre.
Elle me disait que tu avais rendez-vous avec lui.
Mais c'est faux!
Il lui dit. La preuve, vous êtes là.
Mais non, c'est Antoinette qui m'a mis dans ce guépier.
Je ne te crois pas. Putain!
Que vas-tu faire? Tu as tué un homme. La police doit tout savoir.
Je vais te tuer, toi aussi.
Il a tiré sur elle.
Elle est tombée à terre à côté de lui. Germain s'en va, le fusil sur l'épaule. Antoinette a tout entendu. Une fois qu'il est disparu du chemin, elle redescend.
En passant devant le corps, elle ne le regarde même pas.
Arrivée chez elle, elle se couche.
Dans la nuit, on frappe à la porte. Ça la réveille. Inquiète, elle se lève. Elle va à la fenêtre et voit nombre d'hommes. Elle reste en chemise de nuit et va ouvrir. C'est Germain. C'est toi, Antoinette? Oui. Je peux te parler? Oui. Entre. Il entre.
Tu sais qui je suis? Oui, l'ami de Charlotte, ex-mari de Jeanne. Comment sais-tu ça?
Je le sais.
C'est toi qui as écrit cette lettre?
Lui montre la lettre. Elle lui dit: oui.
C'est vrai ce que tu écris là-dessus?
Non.
Pourquoi tu fais ça?
Pour que tu les tues, surtout elle.
Il la gifle. Salope, tu m'as fait tuer une innocente.
Pourquoi?
Parce que je voulais me venger. Et je veux me venger. Je suis jalouse.
Il la secoue des deux mains et lui demande:
te venger de quoi? Dis-le-moi ou je t'étrangle.
Elle lui dit: c'est trop tard.
Oui, je sais, je les ai tués. Mais toi, pas encore.
Il lui dit: tu ne peux plus rien pour moi. Tu l'as déjà fait.
Il la lâche d'un bond. Elle risque de tomber.
T'es complètement folle.
Non, je suis Jeanne, ta femme.
Il lui dit: c'est impossible.
Oui, parce que tu m'as tué, n'est-ce pas?
Il hausse ses épaules.
Tu veux me faire chanter?
Non, me venger, parce que je suis Jeanne, ta femme, que tu as tuée en trafiquant la voiture.
Qu'est-ce que tu dis? Qui t'a dit ça?
Personne, parce que je suis Jeanne.
Arrête! J'en ai morte et enterrée.
Elle le regarde bien dans les yeux et lui dit:
tu n'es pas Jeanne, tu ne lui ressembles pas.
Elle lui dit: je ne suis pas le physique de Jeanne, mais son cerveau. J'étais mis dans un autre corps puisque le mien était brûlé par l'accident.
C'est impossible.
Non, on m'a rendu la vie, on m'a détruit, déterré et pris mon cerveau.
Qui a fait cette chose horrible?
Des scientifiques qui ont voulu faire des expériences sur moi et mon cerveau.
Je ne te crois pas. Comment peux-tu faire? Comment tu fais pour me retrouver?
J'ai téléphoné à ton employeur qui m'a donné le nom de ce petit village. Là, j'ai fait la connaissance de ta femme, ta nouvelle femme, belle femme, sage et douce. J'ai tout fait pour qu'elle devienne la maîtresse de ce petit homme. Mais non, elle n'y pensait même pas. Elle t'aimait trop. Maintenant, tu es à moi. Rien qu'à moi.
Elle veut se pencher à son cou.
Il fait:
non.
La pousse.
Oh!
Elle tombe à terre.
Oh!
Il plonge sur elle et l'étrangle.
Tu vas mourir pour de bon cette fois.
Elle se débat.
Je t'aime, je t'aime. Je t'aime.
La première fois, tu m'avais rien fait. Je t'aime. C'est toi le criminel. En m'assassinant. Je t'ai vu.
Il serre. Elle se débat. Il serre.
Elle ne bouge plus. Reste fixe. Il desserre. Se relève. Elle est bien morte.
Il sort de la maison.
Il retourne à la sienne. Un ressort de bidon d'essence. Il asperge la maison de la pédalgie à l'intérieur. Sur le corps de Jean et jette une allumette sur le corps. Comme ça, le corps s'enflammera et la maison aussi.
Comme cela, on ne pourra pas te faire revivre. On ne pourra pas te faire revivre.
Pris sa voiture et filé à vive allure. Il fait des kilomètres dans la nuit, il ne sait pas où il va, il ne pense à rien, ni à venir ni passé. Il roule, roule, roule. Il ne pense même pas à s'arrêter un jour. Il roule. La fatigue le prend. Il ne sait pas vraiment comment il roule. Il roule. Sans faire attention. Il va de plus en plus vite. Du blanc qu'il a ébloui. La voiture est entrée dans un camion. Ça fait dévier la voiture qui est tombée dans un lac de montagne. Le lac de Montrion. Le continent se construit avec beaucoup de fatigue et de difficultés. Mais les chimères, moitié homme, moitié poisson, et d'autres moitié homme, moitié oiseau, aident beaucoup. Le plus dur, c'est les piliers à mettre dans la mer, car il y en a des milliers et des milliers. Pour que les tremblements de terre et les raz de marée les démolissent pas, on a fait en sorte à ce que l'eau puisse entrer dedans. Sur les plateaux, des piliers, pour les relier entre eux, c'est-à-dire faire la surface de la terre, l'on coule une épaisse couche de ciment spécial fait avec des bactéries qui fera moitié ciment, moitié métal inoxydable. Puis on y recouvrira de tonnes de terre et après de végétaux, etc. Des oiseaux, des insectes, des animaux, mais traités de telle sorte à ce qu'ils ne nuisent pas aux hommes, pas de maladies. On plantera beaucoup d'arbres. Pour l'eau, ce ne sera pas d'eau de source, sera remplacée par de l'eau de mer dessalée et propre grâce à des bactéries. On mettra l'eau de mer dans des bassins avec des bactéries. Les bactéries élimineront le sel et purifiera l'eau. Ce sera l'eau la plus pure et la plus douce du monde. Il n'y aura pas de pollution, car tout sera à l'énergie atomique. Et sous la terre, on mettra des tuyaux et des grillages pour qu'elle reste toujours à la même température et qu'elle ne soit pas humide. Béton, grillages et tuyaux chauffants. Terre, végétaux. Le climat sera très doux, toujours à la même température malgré le temps venu de l'atmosphère. Tous les bâtiments, maisons ou autres seront climatisés. Frais l'été, chaud l'hiver, 25 degrés en permanence. Chauffage, comme tout, atomique. Voiture, pile atomique et tous les moyens de transport. Les transports en commun seront surtout les trains et métros. Les professions seront l'agroalimentaire, le biotechnique, les sciences humaines bio, l'énergie, l'ordinateur. On cultivera des sols à plusieurs niveaux. En gros, des immeubles de champs de légumes, comme des loggias à plusieurs étages mises les unes sur les autres, avec peu ou pas de terre. Comme cela, ça laissera la surface agricole aux animaux qui seront pour la viande, le lait, la laine, les médicaments, etc., etc. Pour le continent, on va créer des hydravions qui décolleront à la verticale et des avions, car on va faire des pistes d'aviation, mais les avions seront moins brillants. Tout ceci donne beaucoup de travail et c'est très long. Le plus dur, c'est les piliers, ces grands tubes qui pèsent des tonnes à enfermer, à enfoncer dans la mer, et il en faut tellement. Mais on y arrive petit à petit. Des milliers d'hélicoptères vont chercher les piliers sur des paquebots pour les amener dans les lieux où ils doivent être déposés. C'est le chantier le plus grand de tous les temps. mais il n'a pas ce côté fabuleux, merveilleux, mystérieux de la construction des pyramides. Là, il y a des machines. Et puis, c'est une chose qui est purement pratique, pas mystique. Le monde n'est plus à cette époque où on pouvait faire des choses mystiques. La tête moderne l'a tué.
Gonzon est avec Madame de Fleury. Il continue à la voir parce qu'il aime beaucoup cette femme qui n'a pas eu de chance avec son fils. Et puis, il se sent coupable parce qu'il sait que Guillaume est vivant, qu'il vit chez lui et empêche son fils de la voir. Elle ne sait même pas qu'il est vivant. Ils sont tous deux dans un salon de thé à Versailles. C'est un salon pour femmes très riche. Le décor est Louis XV, les serveuses et serveurs sont habillés de noir, il y a un petit orchestre, des fleurs, une odeur de gâteau, café, une douce chaleur. La pièce a une douce lumière d'été, comme les rayons du soleil d'une fin de journée d'été. Les tables ont des nappes blanches en dentelle, faites à la main, les serviettes aussi. Les pâtisseries sont faites main, pur beurre, etc. Tout est servi frais, encore fumant. Tout ceci paraît un luxe incroyable pour l'époque, alors que plus de gens dans le monde meurent de faim et que les autres ont juste de quoi se payer un morceau de pain. Les gens qui consomment sont des gens entre deux âges, des fois accompagnés de jeunes enfants, bien payés, bien habillés. Gallien et Madame de Fleury, qui sont assis à une table, ne se rendent compte du privilège qu'ils ont de manger toutes ces bonnes choses avec du chocolat très chaud. Ils ont pris l'habitude, c'est de vivre dans un univers de luxe. Elle lui dit,
je pense à ma mère qui raffolait les derniers temps de sa vie de gâteau.
Chaque fois qu'elle pouvait, elle en achetait. Mais elle aimait mieux qu'on lui en achète. Elle aimait bien que j'allais lui en acheter. C'était comme les fleurs, là aussi. Elle aimait bien recevoir. Qu'elle a dit, votre mère était une grande dame.
Oui, mais elle n'a pas une vie très heureuse.
Dès son enfance, ses parents étaient très autoritaires. Interdiction de sortir, même d'écouter la radio, de lire les journaux. Sa seule distraction était d'aller au patronage pour parler à des jeunes filles de son âge et lire quelques romans de jeunes filles. Mais l'on ne peut pas dire qu'elle a eu une vie de jeune fille. Comme elle était l'aînée, elle devait aider sa mère faire des tas de choses. Et puis, son père a eu des revers de fortune, ce qui fait qu'il y avait souvent des difficultés. Et puis un jour, ma mère a perdu une de ses petites sœurs, qu'elle aimait beaucoup. Elle en a eu un très grand chagrin. Faisait des rêves où elle la voyait. Elle en est tombée malade, avec de la fièvre. Puis, quelques années plus tard, ça a été sa mère. Elle est morte alors qu'elle avait 17 ans. Après la mort de sa mère, elle était obligée de s'occuper de ses frères et sœurs. C'était très dur. Ils profitaient tous d'elle. Elle était devenue leur esclave, pour ainsi dire. Gaïa lui dit, une cendrillon. Oui, si l'on veut. Elle s'occupait de tout. Du ménage, lavage, linge, repas, leçons des plus jeunes, comptabilité. Car le père lui donnait sa paye.
Et en plus, comme le père avait eu des revers de fortune,
elle était obligée de travailler. Alors maison, travail, religion, voilà sa jeunesse.
En plus, la guerre est venue.
Les restrictions, la peur, le froid, et toujours cette faim au ventre. Un jour, en nettoyant chez une amie, un placard, elle trouva du beurre rancis. Elle l'a mangé. Avant-guerre, elle a fait la connaissance de mon père. Mais pendant la guerre, il a été déporté en Allemagne. Après-guerre, ils se sont revus. Ils ne voulaient plus se marier. Mais mon père y tenait beaucoup. Alors, de guerre lance, ils se sont mariés. Mais elle n'aimait pas mon père. Elle a été sa femme par devoir. Elle a tout fait par devoir. Mais l'a jamais aimé. Puis les enfants sont venus. Elle en voulait cinq dès le début du mariage. Mon père n'a plus voulu qu'elle travaille. Elle aurait voulu. Elle a fait des enfants, elle les a élevés par devoir. Puis, pour elle, les élever, c'était l'or. Qu'elle ne manque de rien, c'est-à-dire nourriture, maison, vêtements. L'affection était aussi un devoir. Elle faisait tout par devoir, mécaniquement, jamais par amour. À cause, parce qu'elle n'a jamais eu de jeunesse, d'enfance, d'adolescence, une destinée toute tracée, l'a empêchée d'avoir de l'amour, mais seulement des devoirs. Et à force, les choses que l'on fait comme ça minent les nerfs. Elle a eu les nerfs malades, dépression, presque toute sa vie. Et un jour, elle s'est suicidée.
Gaïa me dit, vous n'avez pas dû avoir une enfance bien drôle.
Elle lui dit, oh non, elle n'était pas drôle. Mon père était devenu taciturne, violent, parce qu'il voyait sa femme ne pas l'aimer. Il ne comprenait pas pourquoi. Parce qu'il disait qu'il faisait tout pour son bonheur. Et puis, nous les enfants, nous étions entre les deux parents qui ne s'entendaient pas. Ils étaient tellement préoccupés par leurs problèmes qu'ils ne voulaient pas voir les nôtres et nous interdisaient que l'on en parle. Pour eux, nous n'avions pas de problème parce que nous avions tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire à manger, des vêtements, un toit. Le reste n'existait pas.
À la maison, l'ambiance était très très simple.
On vivait sur des chardons ardents. Au moindre mot pour dire une chose qui était une critique,
même anodine, cela se terminait par une scène terrible. Le silence, l'interdiction de sortir, de voir des amis. Nous ne recevions jamais d'amis chez nous et nous n'en avions pas. Lorsque par hasard je recevais un appel téléphonique, mon père répondait, même si j'étais à côté de lui, que je n'étais pas là. Interdiction de sortir, et lorsque l'on sortait, dire où l'on allait. Il fallait rentrer tôt, à 17h30, 18h, au plus tard. Dire absolument tout ce que l'on faisait. Les vêtements, ce n'était pas nous qui les choisissions, mais ma mère. Pas le moindre endroit où ranger les affaires personnelles non plus.
Quelle idée, quelle idée.
Oui, et ceci jusqu'à mon mariage. Mon mariage, ça a été dur. Il n'y a rien à me donner. Pas d'argent, rien. C'est surtout ma mère qui comptait et avait toujours peur qu'il manquait de l'argent. Par contre, la famille du prétendant n'était pas comme ceci ou cela. Mais j'ai tellement tapé des pieds que j'ai fini par faire un mariage à peu près correct. Quelques temps plus tard, ma mère m'a déprimé encore plus. Elle ne voulait plus rien faire. Et un jour, elle s'est suicidée. Mon père a déprimé à son tour et a quitté Paris pour la Côte d'Azur où il vivote. Voilà. Et j'ai perdu mon mari et mon fils. Voilà ma vie. Termine de manger et sorte du salon de thé. Et la raccompagne jusqu'à chez elle en voiture. Une fois arrivé, ils se disent au revoir et à la prochaine fois, puis se quittent.